Bonjour à tous, merci à Louise. Et nous allons commencer. Je vous ai mis des choses que vous avez peut-être lues dans votre enfance ou adulte. Moi, j'aimais beaucoup le Club des Cinq. Et dès qu'il y avait une histoire de passage secret, de mystère à lire et à résoudre, j'étais toute contente. Et même adulte, les Agatha Christie, je peux vous dire que j'aime toujours ça. Et pour certains enfants, ils aiment encore Tintin, même encore aujourd'hui. Tintin, le mystère du diamant bleu. Alors, vous avez compris que moi, j'aime beaucoup lire et voir ces films, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a des indices à suivre. Il faut suivre le personnage et il faut émettre des hypothèses pour trouver le secret. Et quand j'ai trouvé le secret, là, je suis contente. Eh bien, parce qu'un secret, c'est quelque chose de caché qu'il faut trouver. Eh bien, aujourd'hui, dans la parole, je vais vous parler d'un secret. Dans la suite de la lettre des Éphésiens que nous abordons depuis plusieurs semaines, plusieurs dimanches, nous allons le découvrir, ce secret, dans Éphésiens 3, versets 1 à 13. Et nous allons le lire. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confié à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Et par cette mise en lumière, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elle contribue à la gloire qui vous est destinée. Ici, je termine la lecture de ce passage de la Bible. L'autre diapo, s'il te plaît. Voilà. Ici, on a répété trois fois le mot secret dans les versets 3, les versets 4 et les versets 6. Donc, Paul va bien nous parler d'un secret. Parfois, dans certaines versions, le mot « secret » est traduit par le mot « mystère ». Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que la notion de mystère à l'époque de Paul, à l'époque où Paul écrit cette lettre aux Éphésiens ? C'est un secret qui se dévoile. Ce sont des vérités qui sont inaccessibles à l'esprit humain, mais révélées par Dieu, et ici révélées à Paul. C'est quelque chose qui était tenu secret dans le plan de Dieu, tenu secret dans l'ancienne alliance, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et révélé ici à Paul. Donc, pas d'indice à suivre, pas d'hypothèse à émettre, mais un secret que Dieu a décidé de cacher aux générations passées, celles de l'ancienne alliance, pour le révéler dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. On le voit dans les versets 3 et 4. Dieu utilise le moyen de la révélation. C'est écrit « par révélation », comme il l'a révélé. Donc, dans un premier temps, je vais développer cette idée, le secret révélé à Paul. Et je vais vous expliquer ce qu'est ce secret. Qu'est-ce que ce secret ? Ben, le verset 4 est très clair. Le verset 4 est explicite. Ce secret concerne Christ. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. Et le verset 6 dit clairement en quelques mots le contenu de ce mystère, de ce secret. Parce que Paul reprend l'idée de l'unité entre juifs et non-juifs du chapitre 2, que l'on a vu la semaine passée, que Mamie nous a développé. Dans ce chapitre 2, il y a mention d'une grande animosité entre juifs et non-juifs, considérés comme un sous-peuple quelque part. Et il y a réconciliation entre ces deux peuples, juifs et païens. Cette réconciliation, elle a été rendue possible par le sacrifice de Christ sur la croix. C'est lui l'instrument de paix avec Dieu et de paix entre juifs et non-juifs. Il n'y a plus de différence. Il forme le peuple de Christ. Et on le voit là, dans le verset 6, le verset 6, ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que les juifs. Les non-juifs font partie du même corps que les juifs. Les non-juifs ont part à la même promesse que les juifs. Ces trois privilèges dont profitent les non-juifs sont rendus possibles par leur union. Je l'ai grisé, par leur union avec Jésus-Christ, par le moyen de la bonne nouvelle. Ce secret, ben c'est l'union des juifs et des non-juifs pour constituer un peuple unique avec Christ. C'est le peuple de Christ qui constitue un seul édifice composé de chrétiens, quelle que soit leur origine. C'est nous, c'est l'Église. Ce secret, c'est l'Église. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Ces mots sont pour nous maintenant, et ce qu'ils prouvent, c'est qu'on est là, tous ensemble, réunis. On a parlé de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu ce matin. Alors, nous venons de voir quel est ce secret. Maintenant, nous allons nous intéresser à ses caractéristiques. Il y en a deux. La révélation de l'Église est inédite Et cette révélation, elle est révolutionnaire. C'est ce que j'aime bien, moi, dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui sont extraordinaires, révolutionnaires, qui transforment complètement nos logiciels de pensée. En effet, ce secret, les anciennes générations en avaient entendu parler, mais ce n'était pour les Juifs de l'Ancienne Alliance qu'une idée vague, une idée d'union, sans comprendre vraiment le contenu de ce que ça voulait dire. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, on voit dans la promesse que Dieu fait à Abraham l'idée de « toutes les familles de la terre seraient bénies ». Dans Ésaïe, on voit que toutes les nations afflueraient comme un fleuve puissant vers Jérusalem, vers Christ. Donc cette idée, elle était un petit peu là, mais pas révélée entièrement. Il a fallu attendre la venue de Christ, attendre que ce secret soit révélé à Paul pour le comprendre réellement. Parce que les Juifs de l'Ancienne Alliance ne comprenaient pas vraiment ce que cela voulait dire, l'union des païens et des Juifs par Christ. Ils n'avaient que quelques éléments épars. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre de par leur culture, de par l'animosité qu'il y avait entre les païens et les Juifs à l'époque, c'était que Juifs et non-Juifs formeraient une seule communauté, le peuple de Dieu. Un peuple en tant que personne qui a placé leur foi en Christ. Il suffit de ça. Placer sa foi en Christ, et quelles que soient nos origines, on fait partie de ce peuple. C'est le peuple spirituel. Donc il faut attendre cette révélation que Dieu fait à Paul pour comprendre tout le sens du plan de Dieu, de ce mystère qu'est l'Église. C'est donc, en quelque sorte, une révolution. Parce qu'on sait que ce concept était impossible dans la tête des Juifs de l'époque. C'était même choquant. Même pour les personnes chrétiennes de l'Église primitive, qui étaient d'origine juive, c'était quelque chose de difficile à comprendre. Il faut vraiment toute la puissance du Saint-Esprit pour faire émerger ce concept révolutionnaire. C'est l'installation d'un ordre nouveau. C'est le projet de Dieu, la construction de l'Église, comme corps de Christ, par cette double union, union entre juifs païens et païens, et union avec Christ. Mais ce secret qu'est l'Église et qui est révélé à Paul, en même temps que cette révélation, Paul a eu une mission. Cette mission, c'est de diffuser, de proclamer ce projet de Dieu qu'est la construction de l'Église. Et c'est ce que je vais développer dans cette seconde partie. Hop! Un secret proclamé. Après avoir été révélé, il est proclamé. Il est proclamé par qui ? Par Paul. Et on va un petit peu plus en savoir sur Paul. Il est dit, l'autre diapo, voilà, il est dit que Dieu lui a fait le don. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan, par le moyen de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière. Donc, Paul, il se considère comme le plus petit, le plus petit de tous ses serviteurs, de tous ceux qui lui appartiennent. Là, il fait certainement référence à ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, au fait qu'il était lui-même un persécuteur des premiers chrétiens. Alors il se dit, ben moi, je ne suis pas digne de porter cette parole. Eh bien non, Dieu lui a fait ce don de service, le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce. Et tout ça, Dieu l'a fait par grâce. Et Paul est vraiment conscient de cette grâce que Dieu lui a faite. Il le répète par deux fois. Donc le mystère, ce secret, est la vérité révélée à Paul, et l'évangile est la vérité proclamée par Paul. Paul va proclamer. Mais à qui va-t-il annoncer ce mystère ? Eh bien, c'est dit dans le verset 8 et 9, d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan. Tu peux me mettre l'autre ? Donc, il s'adresse à qui ? Il l'annonce à qui ? Aux païens, à tout homme. Et à travers, Paul va proclamer l'évangile et les richesses insondables du Christ. Les richesses insondables du Christ, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ces richesses en Christ qu'il accorde à ceux qui viennent à lui. C'est tout simplement la bonne nouvelle, la résurrection de Christ, mort pour nos péchés, qui permet la réconciliation avec Dieu, qui permet l'union des juifs et des non-juifs dans la nouvelle société, le nouvel ordre, voulu par Dieu depuis le commencement. Ça donne le vertige, ces richesses insondables. Et c'est lui, le plus petit des serviteurs, qui va l'annoncer. Et par ricochet, il va même l'annoncer aux autorités, les puissances dans le monde céleste. En annonçant aux hommes, à tout homme, ce secret, par ricochet, il montre dans les cieux, aux anges, toute la sagesse de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. On parle, alors, ça peut paraître un peu fou mon expression, mais on parle là d'une vision cosmique de l'Église, du monde visible et du monde invisible. Ce secret, il va avoir des répercussions dans le monde visible et le monde invisible. Même les anges n'avaient pas vu venir ce secret. Ils ne le connaissaient pas. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Les anges, quand ils regardent l'Église, nous, des êtres humains, dans toute leur diversité d'origine, et que tout pourrait opposer, qu'ils ne devraient même pas vivre ensemble en paix, tellement nous sommes différents. Et bien, ces autorités célestes, les anges, s'émerveillent devant cette unité, cet amour qui nous unit. Ils s'émerveillent de qui est Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que là, aujourd'hui, à Cré, on est réunis pour un culte, pour adorer le Seigneur, pour... Non, écoutez, la parole du Seigneur, mais c'est partout dans le monde entier. Moi, j'ai beaucoup de mal à me représenter la terre entière, mais imaginez que dans tous les pays, dans toutes les régions, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, quelque part, là, en ce moment, c'est l'Église qui se manifeste. Il n'y a pas plus extraordinaire, quand même. Et là, ça ne peut que donner l'émerveillement. L'émerveillement de la puissance, on en a parlé ce matin, de la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Et nous, on fait partie de ce plan extraordinaire. Vous vous rendez compte? Nous, tout petits, moi, Brigitte. Et parce que Dieu a révélé le mystère de l'Église, eh bien, je ne sais plus où j'en suis, pardon, je me suis laissée embrayer. Donc, à qui je l'ai dit? Tu peux me passer l'autre slide, s'il te plaît? Voilà. Donc, on a bien compris que toute la mission, tout le service de Christ, de Paul, c'était justement de diffuser ce message. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ce mystère, ce secret qu'est l'Église, nous? Parce que Dieu a révélé le mystère, le secret de l'Église, ben diffusons-le encore aujourd'hui. Oui, mais alors comment? Moi, avec mes petits muscles. Ben, chacun de nous. J'ai pris ce petit schéma dans un livre qui s'appelle « L'Église en bonne santé ». Et pour moi, ça représentait tout à fait ça. Parce que nous, notre Église, là, en ce moment, on est rassemblés. Et puis, on va être dispersés tout au long de la semaine. Et puis, on va être mis dans notre environnement, dans la famille, le travail, les études, le quartier, nos voisins, toutes nos activités dans les associations, les activités sportives, culturelles, voilà. Eh bien, là où on est placé, on est appelé à transmettre, à témoigner, à incarner ce secret qu'est l'Église. À témoigner. Ben alors, qu'est-ce que ça veut dire témoigner en acte et en parole? Ben, c'est parfois tout simple. On se met des fois les neurones des nœuds dans les neurones, mais en fait, tout ce que nous demande Dieu, c'est d'abord de faire du bien aux autres. Tout simplement, de rendre des petits services. Aller chercher les voisins à la gare, prêter un outil, arroser les plantes pendant une absence, aider en quelles que soient les petites choses, et d'ailleurs, quel que soit notre âge, hein, qu'on soit jeune, petit, adulte, un peu âgé, voire très âgé, eh bien, tous, on a notre petite part, on peut montrer au monde ce que le Seigneur a fait pour nous, tout cet amour qu'il nous a donné, et on peut en donner un peu aux autres. Et puis, on n'est pas tout à fait seul, parce que dans la semaine, on peut aussi se réunir avec d'autres chrétiens et puis inviter des amis. Et pour aller, je sais qu'il y a des hommes qui aiment bien le foot, le rugby, il n'est pas là, Christophe, etc. Et bien, ils invitent à la maison des amis chrétiens, non chrétiens, ils partagent ces moments de joie devant un ballon, moi je ne comprends pas, mais eux aussi. Eh bien, c'est un moyen aussi de montrer notre unité, de montrer cette unité qu'on a entre nous, d'inviter des personnes de l'extérieur, puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, eux, à être bien avec eux, de se sentir plein d'amitié les uns envers les autres. Et ça peut-être provoquer des conversations. En fait, le mot qui pourrait nous aider sur notre piste, dans nos applications, de comment incarner ce secret, c'est peut-être le mot intentionnel. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir dernièrement, parce que je me suis aperçue que je séparais un peu mes sphères d'activité. J'avais ma vie d'église, avec vous, mes frères et sœurs, et puis j'avais ma vie de famille, et puis j'ai ma vie... Et en fait, je me suis même aperçue que j'osais même pas parler de ce qui fait toute mon identité, toute ma personne, parler de ma foi, C'est ce qui me construit. Eh bien, j'ose même pas en parler à ma famille. Vous vous rendez compte? C'est quand même grave. Parce que pourquoi je fais ça? J'ai peur de les choquer. J'ai peur d'être jugée. Je dois normalement incarner ce secret magnifique. Et je suis complètement fermée. J'ose pas. Je mélange pas mes sphères. Alors là, je peux vous dire que depuis quelque temps, avec les formations qu'on a eues, les réunions, je pense beaucoup à ça. Et je me dis, l'intentionnalité, c'est vraiment important de mélanger nos sphères. Pourquoi ne pas inviter nos amis chrétiens avec des amis non chrétiens? On n'a pas de différence. Notre différence, c'est quoi? C'est juste qu'on a à apporter le message, qu'on est un peu différent dans le sens qu'on a la foi. Et alors, on n'a pas à avoir honte d'avoir la foi. Et moi, très franchement, je ne suis pas au top là-dessus. Mais heureusement, je fais partie de l'Église qui agit aussi en collectif et qui organise des événements qui permet de vivre ce qu'est ce secret magnifique qu'est l'Église. Et par exemple, je trouve extraordinaire les groupes de maison. Les groupes de maison, dans la semaine, elles ne sont pas faites par affinité, elles sont faites par zone géographique. Et on cultive notre diversité, mais on cultive notre unité dans cette diversité, par la parole. Et puis, il y a les repas partagés. Là, après le repas, moi, je ne pourrais pas y rester, mais après le repas, il y a ce moment qui est très important, où l'on cultive, justement, notre unité. Et puis, il y a tous les événements, les petits déjeuners entre femmes, les ateliers couture. Tout ça, on est des personnes très différentes et on s'encourage. On ose se partager ce qui nous touche, nos problématiques. Et pourtant, on est très différentes, d'horizons différents. On a des responsabilités différentes, des professions différentes, des niveaux sociaux différents, des cultures différentes. Et pourtant, on peut dans ces réunions, dans ces petits déjeuners, on peut s'exprimer. Et il y a même les flambeaux. Moi, je pense souvent aux flambeaux. Les flambeaux, c'est un merveilleux exemple de diversité. Nos enfants invitent les copains et eux, ils n'ont pas de filtre. Allez, viens, on s'amuse super avec la nature. On parle de Dieu, on chante. On construit des cabanes, on fait des super parties, des super jeux. Et ça, c'est aussi une manière de vivre l'Église et d'exprimer à l'extérieur ce qu'est l'Église. Tout cela, c'est un encouragement à réfléchir en tant que l'Église à des événements ouverts vers cette petite ville de Cré, déjà à notre échelle. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs fait la semaine passée ou la semaine d'avant sur le thème de Noël. Nous nous sommes posé la question sur quoi proposer pour inviter les voisins de notre petit local à Sardy-Carnot. Et comment partager le sens de Noël, la bonne nouvelle que cette fête véhicule, aux habitants de Cré. Donc, et il y avait eu plein d'idées. Moi, j'ai été émerveillée de voir toutes les idées qui fusent. Parce que quand j'ai démarré dans cette réunion, je n'ai pas beaucoup d'idées. Donc, en tant qu'Église, ne nous privons pas de profiter de toutes les opportunités, de créer des espaces pour faire vivre nos diversités où Dieu révèle sa sagesse. Ce qui peut interpeller nos contemporains, de toute condition et de tout arrière-plan religieux ou pas. Notre Église, c'est peut-être l'Église, ce secret qu'est l'Église, c'est peut-être aujourd'hui un des derniers lieux où des gens tellement différents qui ne devraient pas vivre en paix, vivent en paix. Il n'y a pas de petites histoires d'égo, de machin, de trucs, comme dans beaucoup d'associations. On est ensemble et on est bien ensemble. C'est peut-être un des derniers endroits. Et je discutais avec une sœur ce matin qui me disait « Ah, Brigitte, j'ai mon petit-fils ou mon neveu, je ne me rappelle plus, a assisté à ce qui s'est passé au polygone, la fusillade du polygone. » Eh bien, oui, il y a de la violence partout à l'extérieur. Il y a cette haine qu'on sent. On prend maintenant une mitraillette, on fusille, on pompe truc. Eh bien, l'Église, c'est un des derniers remparts, peut-être, à tout ça. Donc, il faut vraiment le vivre, ne pas avoir peur de te montrer tout l'amour qu'on... Pardon. Tout l'amour qu'on a reçu du Seigneur. Et Aloïs nous l'a vraiment montré ce matin, la richesse de la parole, le sacrifice qui a été fait pour nous et qui est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de juifs, de non-juifs, de chrétiens, de non-chrétiens. Dieu n'a pas fait ce sacrifice comme ça. Il l'a fait pour tout le monde. Alors oui, désolée, ça me touche. L'émotion prend le dessus. Alors oui, parce que Dieu a révélé le secret de l'Église, diffusons-le encore aujourd'hui et même soyons encouragés à le faire. Ne nous en privons pas. Je finirai là-dessus. Désolée.